Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, il s'agit de l'affaire Théodule Ribaud, l'aventure d'un peintre que l'on redécouvre. On a dit de lui qu'il recouvrait ses sujets de suie et qu'il barbouillait ses tableaux de noir. Il était considéré comme un cavalier solitaire, un peintre indépendant à rebours de son temps. Il était l'ami des grands de son époque, Théophile Gautier, Eugène Boudin, Corot, Rodin, Gustave Courbet. Oui, il était tout cela à la fois et pourtant, la plupart de vous ne le connaissez pas. Où vous ne le connaissez plus. Nous parlons aujourd'hui d'un oublié de la grande histoire de l'art. Théodule Ribaud, son nom ne vous dit peut-être plus rien, mais son œuvre n'en est pas moins présente dans de grandes collections publiques françaises et internationales. Sa vie douloureuse, sa passion pour la peinture espagnole, les petits métiers, les gens modestes en font un artiste éloigné peut-être des grands genres. Mais son obstination, sa détermination, sa patte témoignent pourtant d'un vrai talent d'artiste singulier, bien que peut-être, nous le verrons, anachronique. L'artiste est aujourd'hui célébré sur sa terre d'adoption dans les Hauts-de-Seine grâce au travail conjoint des villes de Courbevoie et de Colombes, ville dans laquelle d'ailleurs il vécut avant d'y mourir le 11 septembre 1891. Les deux villes proposent une rétrospective en deux volets. La première vient d'avoir lieu au musée de Courbevoie et a privilégié l'œuvre peinte. La seconde ajoute au tableau le musée de Colombes, donc l'aquafortiste et le dessinateur. Je voudrais vous faire entendre peut-être d'abord le texte qui accompagnait ou qui réagissait à l'exposition des œuvres de Ribaud, exposition qui eut lieu à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1892. On redécouvrait juste après sa mort, ou en tout cas on célébrait juste après sa mort, son talent.
Ribaud fut un solitaire. Disciple de Chardin et des Espagnols, il a dédaigné, ignoré même le mouvement contemporain. Sa personnalité a quelque chose d'entier, d'aigu et de volontaire qui la met à part. On peut ne point manifester une très grande tendresse pour ce genre de peinture sourde, monocorde et comme enveloppée de suie dans le sombre. Il faudra cependant reconnaître et admirer la supériorité et la sincérité d'exécution, la finesse de dessin et le style qui s'enferme dans cet art austère et puissant. Ne serait-il que le maître peintre que nous voyons qu'il aurait droit encore à une place éminente, nous dirions volontiers unique, dans l'histoire de la peinture contemporaine. Mais il y a plus. Ribaud était un penseur, un scrutateur passionné de la physionomie humaine. Il laisse une vingtaine de portraits qui sont des chefs-d'œuvre de vie intense et de pénétrante observation. Exposition des œuvres de Ribaud à l'École des Beaux-Arts, 1892.
Alors ce texte que nous venons d'entendre célèbre effectivement notre ami Théodule Ribaud, mais pour en parler, pour voir si c'est absolument exact, nous allons voir... Peut-être nous allons étudier les contradictions peut-être de l'époque et les contradictions dans lesquelles cet artiste se trouve. Et pour en parler, j'accueille et je suis ravi Christine Dessem. Christine, vous êtes la conservatrice du musée de Colombes et je crois que vous avez donc, contrairement à ce que je dis tout à l'heure, en superposition les deux expositions.
Les deux expositions. Le musée de Courbevoie a prolongé son exposition jusqu'au 31 mars. Et nous commençons la nôtre le 23 février. Donc pendant quelques semaines, vous pourrez profiter de toutes les œuvres exposées dans nos deux villes.
Voilà, formidable, nous ne manquerons pas de le faire. Et vous vous êtes entouré pour concevoir cette exposition, l'accompagner d'un très beau catalogue d'ailleurs de Dominique Lobstein. Dominique Lobstein, vous êtes un ancien d'Orsay, comme on dit, non ?
Absolument, oui, oui. Hein, oui.
Et vous êtes passionné pour, au fond, la façon dont on réagissait ou dont la critique réagissait au salon, au XIXe siècle en particulier.
Absolument, c'est de la littérature, c'est de la grande littérature, et donc tout de suite quand j'ai décidé de m'intéresser au 19e, j'ai aussi décidé de m'intéresser à ce qu'on disait des œuvres, ce qu'on disait des artistes.
Alors on va l'entendre tout à l'heure, parce qu'on va faire passer quelques textes pour que vous voyez les réactions de l'époque, qui sont d'ailleurs très contrastées sur Théodule Ribaud, mais c'est vrai qu'il y a une saveur, il y a une couleur, il y a une pâte, il y a un beurre sale par moment dont ils enduisent les peintures, et c'est assez extraordinaire.
Oui. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure. On s'exprime et on emballe ça dans des jolies phrases avec de beaux mots, parfois des mots durs, des mots féroces, mais tout ça est manié de manière très élégante.
Oui, j'adore cette littérature artistique de l'époque, cette critique beaucoup plus libre que celle d'aujourd'hui, moins conventionnelle, et vraiment très écrite. Alors, vous avez déniché un artiste que je ne connaissais pas, beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas, Théodule Ribaud. Théodule Ribaud, me semble-t-il, est très paradoxal, parce qu'il est aimé par les artistes, de bons artistes de son époque, on parlait de Corot par exemple, ou Boudin, on a pu dire, et puis en même temps, son œuvre est singulière, mais pas singulière au sens de l'art brut, singulière au sens d'un certain anachronisme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas un artiste tout à fait comme les autres. C'est pas quelqu'un qui est passé par le système d'enseignement des beaux-arts traditionnels. C'est quelqu'un qui se forme tout seul. Il reçoit quelques petits conseils d'un artiste, lui, très académique. Et après, c'est...
C'est Glaise.
Glaise, voilà. Auguste Barthélemy Glaise. Et ensuite, c'est la fréquentation des gravures, des ouvrages, des musées. Encore que sa vie, elle se passe à Paris, autour de Paris. À part les séjours d'été en Bretagne ou en Normandie, il ne quitte jamais Paris. Il n'a jamais quitté la France, sauf une fois, mais pas pour des questions artistiques. Donc, voilà, il s'imprègne de tas de choses, et il les digère, et il les restitue d'une autre manière. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment le peintre indépendant. Il est en dehors de tout système.
D'ailleurs, c'est comme ça qu'il sera célébré à la fin de sa vie par un fameux banquet dont on va parler tout à l'heure. Dominique, vous êtes intéressé donc à cet artiste passionnément, hein, on peut le dire. Vous dites qu'il est indépendant, c'est certainement un esprit indépendant, mais il est quand même très très dépendant d'un certain nombre de références. Il regarde toujours les mêmes choses, ou pas ?
Mais il regarde des choses variées, donc ça s'étale dans le temps, forcément. On le considère comme très influencé par l'Espagne à ses débuts, mais...
Il faut dire qu'on avait ouvert il n'y a pas très longtemps la galerie espagnole...
Non, elle était fermée quand il arrive sur le marché de l'art.
Quand lui arrive,
oui, oui.
Mais c'était passé dans l'esprit, l'esprit des contemporains.
Bien sûr, oui.
Louis-Philippe avait ouvert cette galerie espagnole et tout le monde avait, tout d'un coup, Manet par exemple, ils étaient tous passionnés pour cette peinture espagnole qui était bien connue, donc du coup à l'époque.
Oui, oui. Mais les œuvres n'étaient plus visibles. C'est en ça que Ribaud va se former ailleurs que devant les œuvres de la galerie espagnole.
Alors vous pensez que c'est faux quand tous les critiques de l'époque disent Ribaud, au fond, c'est Velázquez dans la cuisine ?
Non. Mais c'est un Velázquez revu à la mode Ribaud. C'est vraiment, il a intégré certaines choses, il en a tiré ce qu'il pouvait, et puis il a fait autre chose. C'est forcément singulier ce qu'il fait. Parce que plus tard, on va dire que c'est aussi le Rembrandt du siècle. Et puis après, on dira que c'est le Chardin des natures mortes.
Effectivement.
Et voilà. Et aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est le caravagesque français, le dernier caravagesque français. Donc, comme ça.
Alors, ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que on pourrait dire qu'il est à chaque fois anachronique. Parce que quand on le compare à un autre artiste, quand on parle de l'influence de Ribera, vous parlez de Rembrandt ou de Caravage, c'est toujours à des artistes d'autrefois. Et donc, c'est au fond un artiste ancien perdu dans son monde contemporain. Ou pas.
Si vous voulez, oui, tout à fait.
C'est pas du tout critique, au contraire.
Non, c'est une situation
assez particulière que je trouve très intéressante.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous un artiste anachronique ? Et est-ce que ça lui irait de dire que c'est un artiste anachronique ?
Anachronique, ça veut dire hors de son temps. Il n'est pas hors de son temps, quand même, parce qu'il va aborder des sujets de son temps. Il commence au salon avec des petits marmitons. Et ce qui est amusant, c'est que d'un tableau à l'autre, vous voyez la tenue du marmiton qui évolue. Vous savez que la toque n'est pas d'origine, Et petit à petit, on va les voir changer de vêtements, on va les voir occupés à des choses différentes.
Alors, il paraît que tout a commencé pour les Marmitons avec un déguisement de son fils au Mardi Gras.
C'est ce que dit la presse, et ce que lui n'a jamais démenti, donc on peut y croire.
Racontez-nous comment ça s'est passé, et comment c'est ce thème, pourquoi est-ce que ce thème a eu tant de succès?
Il faut imaginer que Ribot essayait depuis 1852 d'être admis au salon. Il était refusé tous les ans.
Alors, il a 1852, comme il est né en quelle année?
23.
Donc, il a commencé à peindre très tard.
À être reçu très tard. Il a certainement peint avant, mais on n'a pas de... C'est-à-dire, en 71, il habite Argenteuil et les Prussiens détruisent complètement l'atelier. Donc, il y a toute une partie de sa création qu'on ne connaît pas.
Est-ce qu'il n'aurait pas commencé comme peintre décorateur, des petits travaux de 4 sous, si j'ose dire.
Voilà, on n'a aucune vraie certitude, mais effectivement, il a dû travailler comme l'ont fait d'autres artistes, comme Renoir, il a dû décorer peut-être un peu de porcelaine, un petit peu de store, un petit peu d'éventail. Il fallait faire vivre la famille.
Mais il était déjà... On sentait qu'il voulait devenir artiste professionnel ou il était encore...
Rien ne permet de le dire. On a très peu de correspondance et les journalistes vont s'intéresser à lui après 1861. Donc, les débuts de Ribot, c'est quelque chose qui reste encore très obscur.
Christine Dessem, avec votre collègue donc, qui a fait l'exposition à Courbevoie avant qu'une autre partie aille à Colombes, vous avez vu les réactions du public dans l'exposition. Est-ce que ça a touché le public, l'œuvre de Ribot? Ou est-ce qu'au contraire, ils se sont dit « Ah, c'est un vieil artiste, un petit peu sombre, n'en parlons plus », etc.
C'est vrai que Théodule Ribot est d'un abord peut-être un petit peu difficile pour le public, qui voit dans un premier temps un artiste en effet assez sombre. Au musée de Colombes, nous avons la tireuse de cartes, donc qui
à quoi
a
ça
un
ressemble.
Aspect. Donc vous avez une jeune femme en premier plan, tendant sa main vers une femme plus âgée, portant un voile sur la tête, un petit aspect de sorcière.
Elle a une carte dans sa main.
Voilà, qui tient un as de carreau.
De carreau, je crois, oui.
Au milieu, un chat gris.
Ouais.
Et derrière la jeune fille, une femme plus âgée semble quelque peu inquiète. Ce tableau provoque des réactions très très diverses chez le public. Un rejet total ou une fascination totale. Beaucoup de nos collègues qui fréquentent le musée sont malgré tout fascinés.
Parce que
ce tableau pose question. Qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Ce chat gris? Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est gris. Ces femmes, quelle est cette...
Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, c'est la femme qui reçoit l'information sur l'as de cœur. On lui tire l'avenir, en fait.
Hein.
L'as de carreau, oui, exactement. Il y a un chat qui regarde cela. On a l'impression que c'est codé. On a l'impression qu'il y a une femme comme ça, voilée, tout habillée de noir. Le chat regarde la carte très bizarrement. L'autre a sa main ouverte, comme si elle avait fait lire ses lignes de la main. Il y a quelque chose sur le destin, non?
Quelque part, l'as de carreau signifierait comme une sorte de passage, un voyage vers quelque chose. Donc on peut imaginer voyage vers la mort ou un avenir qui va arriver. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est le visage de la jeune fille, qui semble aussi très énigmatique.
Oui. Et moi, je trouve ça un tableau absolument magnifique. Il y a un autre, donc les autres tableaux qui ont dû quand même enchanter le public, ce sont ceux dont vous parliez, Dominique, à l'instant, c'est les Marmitons. C'est quand même très amusant, pittoresque, on en a un nom.
Alors les Marmitons, ils n'ont pas encore été vus à Colombes. On en a beaucoup dans notre collection d'estampes. C'est vrai que ces Marmitons, oui, peuvent amuser. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ces eaux fortes, c'est ce quotidien, finalement. C'est ce quotidien qu'il présente. Certains sujets semblent assez déconcertants. Une nature morte au poulet, une nature morte à l'œuf au plat. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut s'attacher à la facture. Et l'important est de prendre le temps de regarder les œuvres. Je suis persuadée que l'exposition n'a pas encore ouvert. Je suis persuadée qu'il va y avoir des des coups de foudre, vraiment une découverte de l'œuvre de cet artiste. Les dessins également, moi je dirais que c'est ce que j'apprécie le plus dans son travail. Nous en avons quelques-uns dans nos collections, une étude de trois hommes au lavis d'encre, avec une patte très particulière qui est assez différente de ce que l'on retrouve sur ces tableaux, je trouve, et qui montre là aussi quand même, je trouve, la diversité de son travail.
Moi, je crois qu'il y a une diversité. Dominique, vous parliez des marmitons parce que c'est la première chose à laquelle on pense, c'est quand même ça l'a caractérisé pendant un certain temps. Donc, ça serait amusant peut-être d'écouter un petit peu ce que disait Théophile Gautier, et vous connaissez Théophile Gautier, hein, c'est un morceau que vous connaissez, c'est très bref. Écoutons ce que dit Théophile Gautier des marmitons.
Ribaud, les marmitons n'ont plus rien à envier aux croque-morts. Eux aussi ont leur peintre, leur spécialiste. Monsieur Ribaud a trouvé le côté pittoresque de la veste et de la casquette blanche. Il a saisi les aspects variés de cette intéressante et modeste institution et traite les divers épisodes de la vie cuisinière avec une verve et une touche originale qui réjouiraient Velázquez. Théophile Gautier, 1861.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons évidemment de Théodule Ribaud, un artiste très étrange dans son époque. Et nous venons d'entendre la critique de Théophile Gautier. Beau style déjà.
Oui, et puis pour une première exposition, quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Et donc ça a marqué les esprits, c'était sa première exposition au salon. Le salon, il faut le rappeler, c'était très important le salon.
C'était fondamental, il n'y avait pas un grand marché de l'art, il n'y avait pas de marchand d'art comme on l'imagine après la guerre de 70. Et donc toute l'économie des artistes reposait sur leur présence au salon, leur acceptation et les critiques qui leur étaient décernées.
Alors, de plus en plus, il va pouvoir aller au salon, montrer une œuvre, puis deux œuvres, puis cinq œuvres, puis huit œuvres. Ça va être un petit succès pendant un moment.
Malheureusement, il arrive au salon en 61 où il a le droit de présenter 6 œuvres.
Ouais.
Dès le salon suivant de 63, le nombre d'œuvres acceptées est limité à 2.
Ah zut.
Donc, voilà, il n'aura plus que le droit à deux envois. Alors, deux envois par technique. Ce qui fait que, généralement, il va envoyer deux peintures et deux gravures, et parfois deux dessins. Mais vraiment, ces envois vont être limités. Mais ce qui va le sauver, ce sont toutes les expositions de province auxquelles il va participer.
Parce que ces marmitons vont circuler. Alors, à l'époque, il y avait des peintres de marmitons. Ça, c'était lui. C'est quand même, c'était sa spécialité. Il y avait des peintres de béguines. Il y avait des peintres d'enterrement. Je pense qu'on faisait allusion à Courbet ou bien.
Oui, oui. Les Béguines, c'était certainement ou Bonvin ou Volon. Enfin, tout ça était des amis à lui. Tout ce petit monde, c'était un peu réparti le monde du travail.
Est-ce que c'était politique comme
non.
sujet?
Non.
C'était non. simplement pittoresque.
Absolument, oui, oui. C'était la scène de genre qui était en pleine évolution. Je pense qu'il ne faut pas y chercher plus que ce que ne disent les images.
Moi, je voudrais vous faire écouter ce que dit à ce moment-là, en 1863, hein, donc c'est Paul Mante qui était le rédacteur des chroniques du Salon à l'époque, hein, donc ce qu'il dit justement de Ribaud. Écoutons-le.
On avait peint de tout temps des soldats, des paysannes, des grands seigneurs, des courtisanes. Monsieur Ribaud a imaginé de peindre des marmitons et le monde a été charmé. Monsieur Ribaud a une manière à lui, une manière simple et frappante. Dessinateur un peu aventureux, il cherche l'harmonie et il la trouve dans la combinaison des tons noirs et des tons blancs, relevés parfois de verdâtre et de rose léger. Tout cela est d'ailleurs plein de caprices et d'esprit. Le livret nous apprend que Monsieur Ribaud est élève de Monsieur Glaise. C'est à merveille. Mais les vrais maîtres du jeune peintre, ce sont, s'il vous plaît, les Espagnols, et même les plus grands. Si je ne savais que les comparaisons sont dangereuses et qu'il ne faut pas abuser des noms glorieux, je saluerai volontiers dans M. Ribot le Velasquez des cuisines. Paul Mantz, 1863.
Dominique Lobstein, on vient d'entendre cette très, très jolie critique du Velasquez des cuisines. Alors, je voudrais vous dire que je suis sûr que si on aime Ribot, on va au-delà de cette description du Velasquez des cuisines. Il y a aussi une façon de peindre, une façon d'observer. Qu'est-ce qui vous retient, vous, par exemple, chez Ribot ?
J'ai découvert Ribot il y a 45 ans. Et il y a 45 ans, j'ai tout de suite été fasciné par, justement, ces noirs, ces blancs, ce dessin un peu incertain, comme disait Paul Mantz, mais tout ça dégageant une profonde humanité. C'est vraiment, on sent dans la manière de peindre, dans les sujets abordés, on sent l'homme, et ça c'est tellement rare en peinture que c'est forcément fascinant.
Alors c'est un homme qui est un observateur, il a quand même, il aime les trognes, des visages très très marqués par l'âge, par et il aime faire apparaître des caractères assez douloureux.
Oui, il n'hésite pas à montrer que la vie, c'est pas du gâteau.
Mais la sienne n'a pas été du gâteau ?
Pas du tout.
Vous nous racontez en quelques mots ?
En quelques mots, tout allait bien jusqu'à 20 ans quand son père est mort. Ensuite, il s'est retrouvé chargé de famille, donc il s'occupait de sa mère, de ses sœurs, de sa femme, de ses enfants. Il a perdu au moins 3 de ses 5 enfants en bas âge. Il a fait des petits boulots jusqu'à devenir contremaître en Algérie pendant 18 mois pour faire vivre tout son monde. Donc c'est une vie quand même très compliquée. Il revient, c'est un homme qui est malade, souvent malade, et donc il se retire dans ses petits pavillons de banlieue, où là, eh bien, il est auprès des siens, il vit une vie tranquille, il ne refuse pas de recevoir le monde, mais il ne bougera pas de chez lui.
Et alors il va lancer, une fois qu'il aura eu ce succès avec Nos Marmitons, dont on ne parlera plus, il a lancé plein d'autres sujets, parfois des sujets religieux, parfois des sujets sociaux, parfois... Et presque toujours avec la même patte. C'est toujours des tableaux très sombres, des fonds presque noirs, des visages saisis par un éclair lumineux. C'est pour ça que vous parlez de Caravage, j'imagine, tout à l'heure. Enfin, c'est pas non plus Caravage, hein. On n'est pas exactement à ce niveau-là, mais c'est... On peut dire que la critique est divisée à l'époque, à son égard.
Bien sûr, bien sûr. Après les Marmitons qui font, alors excusez le jeu de mots, qui font pas bouillir la marmite, il faut faire ce qu'on appelle des peintures du grand genre, c'est-à-dire plutôt des peintures historiques ou religieuses. Et là, il va se lancer dans ces grands tableaux de salon que l'État va acheter, le Saint-Sébastien, Jésus au Temple, le Bon Samaritain. Voilà. Et donc là, les gens vont être très, les journalistes vont être très réticents devant ses œuvres où justement il est sans concession. Il va au-delà du Caravage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement les pieds sales, mais tout est sale chez eux.
Ça le peine de pas avoir d'avoir des critiques, la critique l'atteint, ou au contraire, il a son chemin, il aime l'art et ça lui est égal. Il est vraiment indépendant.
Il est indépendant, il continue son chemin, quoi que les gens en disent. Alors, de temps en temps, il fait une petite exception, il va vous mettre un petit peu plus de couleur dans un tableau, mais il revient toujours sur ce qu'il aime, c'est-à-dire ce noir et ce blanc, ces mélanges, ces oppositions.
Alors j'aimerais vous faire écouter une critique de Charles Blanc. C'est le salon de 1866 dans la Gazette des Beaux-Arts. Écoutons.
Quand on regarde le Christ et les docteurs de M. Ribot parmi les toiles du salon, ses empattements sont plus rugueux, ses ombres plus épaisses, son noir se noircit, sa brutalité se brutalise, son exagération s'exagère. Quel étonnement d'énergie dans le rendu de ses chairs halitueuses, malpropres, tantôt lymphatiques, tantôt sanguines, mais toujours raboteuses et accidentées de taches et de verrues. Tout cela est réel, je le veux bien, mais tout cela est-il vrai? En somme, cela est-il même vraisemblable? Dans quel pays a-t-on vu un groupe de docteurs ressembler à une troupe de balayeurs? Charles Blanc, 1866.
Nous continuons notre émission sur Théodule Ribaud, cet artiste singulier de la fin du 19e siècle. Je suis avec Christine Desem. Christine, qu'est-ce que vous pensez de cette critique que fait Charles Blanc? Est-ce que ça vous fait mal quand on dit du mal de cet artiste que vous avez décidé d'aimer et de montrer?
Non, la critique, c'est le rôle des critiques. Voilà, ils sont... Non.
C'est une incompréhension ou est-ce que c'est un mauvais jugement sur un bon peintre?
C'est son jugement. Chacun réagit à sa manière devant une œuvre d'art. Après, il est certain que Théodule Ribaud, de prime abord, le côté... C'est peut-être ce côté justement authentique qui peut gêner, même dans son grand genre. Les choses, les personnages sont présentés dans toute leur humanité. Quand on voit son Saint-Sébastien blessé, agonisant,
en train d'être soigné, néanmoins.
Voilà, en train d'être soigné, mais là cette flèche dans le bras droit. On sent la douleur, la souffrance, cette blessure. Je pense que c'est cela qui finalement touche, qui peut-être choque parce que ce n'est pas assez lisse. C'était pas la mode de l'époque. Ce n'est pas assez lisse, mais je pense que c'est cela qui fait que finalement Théodule Ribaud va nous toucher et on va tomber amoureux de son œuvre.
Parce que vous trouvez en fait que c'est un peu un artiste maudit, quoi. Non, c'est pour ça. Vous aimez ce destin romantique?
Je parlerai pas d'un artiste maudit, peut-être incompris par le grand public.
Vous avez sans doute raison. Plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez de Dominique Klopstein? Il est pas maudit, en effet, parce qu'il a quand même des succès.
Oui.
Il est même décoré de la Légion d'honneur, si je me souviens bien.
Oui, enfin, un peu tard, quand même. Il est décoré en 78, donc, et quand il reçoit la Légion d'honneur, il y a des journalistes pour écrire, tiens, il l'avait pas encore.
C'est quand même. Alors, vous avez une attitude assez particulière, parce que quand vous entendez une mauvaise critique faite à son égard, vous qui aimez cet artiste et qui le comprenez, vous vous réjouissez quand même parce que vous la trouvez bien écrite.
Ça, c'est oui. Premièrement, je suis ravi parce que il a généré quand même des phrases qui sont là, les oppositions. On passe
les chairs halitueuses. C'est rare comme ça.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je voudrais ajouter que il faut penser que. À ce moment-là, au salon, c'est le règne de Cabanel. C'est le règne de ces Vénus nues sur les vagues de la mer. On est dans le rose et le bleu, la crème chantilly. Et lui, il arrive avec ses peaux de noir, avec ces gens qui ont vécu. Et forcément, les critiques auraient tous crié au génie qu'on penserait à une supercherie.
Mais il faut se rendre compte aussi que, vous avez tout à fait raison, ce qui triomphe, c'est Cabanel, c'est cet art pompier. Mais en même temps, on est à la naissance de l'impressionnisme. Delacroix est mort il y a 3 ans, une autre génération arrive, la jeunesse est là. Et lui, qui les connaît bien, fait comme s'il n'existait pas.
Oui, il fait son chemin.
C'est curieux, ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous entends hocher de la tête.
Oui, mais on sent vraiment qu'il fait son chemin. Il fréquentait dans cette zone ouest de Paris. On avait Claude Monet habité une maison à Argenteuil, la maison d'Argenteuil juste après la guerre de Ribaud, juste après la guerre de 1870. L'appréciait. Il devait se fréquenter. Un peintre local, Gustave Bienvêtu, habitait à côté de chez Théodule Ribaud, qui faisait une peinture totalement différente. On sait l'admiration que tous ces artistes portaient à Théodule Ribaud, mais vraiment, oui, il restait vraiment dans son style, dans ce jus, dans cette observation du quotidien, de l'intensité, de ce que vivaient les personnages aussi. C'est ce qui est très marquant dans.
Vous voulez dire qu'il a une empathie très forte.
Oui.
Qu'on sent.
Mais qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder ses œuvres pour le ressentir. Ces jeunes femmes qui prennent leur leçon de tricot, ces petites demoiselles en prière quelque chose de très intense qui se dégage de ce...
Qui sont très... on les regardait, quand je regarde ces tableaux, des jeunes filles en prière, et d'ailleurs les jeunes filles en général, je les trouve très choraux. Elles évoquent beaucoup la peinture de Corot. Qu'est-ce que vous en pensez?
Absolument, oui, oui. Oui, hein, oui.
C'était. Il a peint. Est-ce qu'il n'avait pas peint une maison de Corot ou...
Alors, il a fait quelques paysages, dont un qu'on appelle habituellement, vu de la maison de Corot, c'est pas la maison de Corot.
C'est désolé. Pas la maison de Corot. Mais là, vous, d'un coup, il y a des siècles de critiques qui s'effondrent sous votre parole décisive.
Non. Alors, s'il y a une chose de Ribot qui a été peu étudiée, ce sont ses paysages.
Mais il les donnait, il paraît qu'il les vendait même pas, les donnait parce qu'il n'y attachait pas beaucoup d'importance.
Les paysages de Ribot ne dépassent jamais 15 par 20 centimètres. C'est peint sur des petits panneaux de bois très vite faits, et généralement ils sont donnés avec une dédicace à quelqu'un. C'est vraiment, là aussi on est dans l'intimité, dans le souvenir, dans les relations humaines.
Aujourd'hui vous l'exhumez par cette exposition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement... la belle œuvre d'un petit maître que vous soulignez. Il y a quelque chose qui doit vous passionner chez lui.
Mais c'est un grand maître.
C'est un grand maître.
C'est un grand maître.
C'est un grand maître anachronique ou pas?
Non, c'est un personnage qui est tombé à un moment où on ne l'attendait pas.
Alors, oui, en fait, il s'est trompé d'époque.
Voilà, il s'est trompé d'époque.
Alors, il y en a un qui est sévère avec lui. Pourtant, on pourrait penser que le réalisme de Ribot pourrait l'enthousiasmer. C'est Zola. Moi, je suis très surpris de la critique de Zola. Écoutons-la, puis on va en parler.
Vous voulez des réalistes, des tempéraments, m'a-t-on dit. Prenez M. Ribot. Mais je nie que M. Ribot ait un tempérament qui lui appartienne. Et je nie qu'il rende la nature dans sa vérité. La vérité d'abord. Regardez cette grande toile. Jésus est au milieu des docteurs dans un coin du temple. Où est le sang ? Où est la vie? Ça, de la réalité? Mais les têtes de cet enfant et de ces hommes sont creuses. Il n'y a pas un os dans ces chairs flasques et bouffies. Ce n'est pas parce que les types sont vulgaires, n'est-ce pas, que vous voulez me donner ce tableau pour une œuvre réelle. J'appelle réelle une œuvre qui vit. Une œuvre dont les personnages puissent se mouvoir et parler. Ici, je ne vois qu'un monde espagnol à peine francisé. Non seulement l'œuvre n'est pas vraie, ne vit pas, mais de plus n'est pas une expression nouvelle du génie humain. Monsieur Ribot n'a rien ajouté à l'art. Il n'a pas dit son mot propre, il ne nous a pas révélé un cœur et une chair. Émile Zola, 1866.
Vous écoutez L'Art et la Matière, et nous entendons une critique de Zola contre l'œuvre de Théodule Ribot que, moi, je dois dire, j'aime particulièrement et que je trouve très étrange. Une œuvre qui est tout à fait autre, parce que quand Zola dit qu'il n'y a pas de réalisme dans cette œuvre-là, je ne sais pas ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Christine de Sem?
Si, il y a du réalisme.
Les chairs vivent, oui. La vime, les marques.
Oui. Après, je pense particulièrement à un tableau que le musée a récemment acheté, le portrait d'un jeune garçon, peut-être le fils du son marchand de vin colombien. C'est comme dirait Dominique, c'est une trogne. Peut-être que les personnes étaient habituées à ce côté. Beau dans l'art, son réalisme peut paraître vraiment, oui, déconcertant. Dire que l'on aime ou on n'aime pas, je dirais que c'est peut-être pas le plus important, mais en tout cas, son travail interpelle. Face à certaines de ses œuvres, je suis personnellement parfois déconcertée, mais j'y trouve de toute façon, de toute évidence, un grand intérêt.
Alors, il y a des tableaux, moi, qui me bouleversent absolument. Par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce sont les tableaux, ce sont les natures mortes. Je les trouve dingues. Il y a en particulier une nature morte qui est un simple gigot, que je trouve d'une beauté particulière. Qu'est-ce que vous en pensez de ce gigot, Dominique ?
C'est fascinant. C'est fascinant. Parce que là, pour un artiste qui est tombé en dehors de sa période, il est tombé bien avant la date à laquelle il aurait dû naître. Parce que ce gigot, c'est tout l'art contemporain, c'est avec cet œil noir au milieu de la viande qui se décompose plus ou moins, c'est fabuleux comme peinture.
Alors il dit quelque chose que je trouve formidable, c'est lui qui parle, et il dit « Les côtes de bœuf et les gigots que j'ai copiés m'ont appris à trouver la note juste pour la pourpre des lèvres et le bord des yeux fatigués. Leur graisse jaunâtre ou blanche m'ont donné des tons de peau merveilleux. Le poisson, avec ses écailles brillantes, m'a servi pour le globe vitreux de l'œil. Il n'y a pas de sujets insignifiants, pas d'exercice inutile en peinture. » C'est très profond parce que on sent ce qu'il cherche.
Absolument, oui, 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 oui.
Hein, c'est un artiste, comme c'est un autodidacte, il n'a pas arrêté de chercher.
Absolument, oui, oui.
Vous trouvez pas que, je suis surpris aussi que dans ses amis, il y a quelqu'un qui a été très proche de lui, qui est Boudin.
C'est une rencontre de jeunesse.
Oui.
Deux artistes qui sont un peu en marge, ils ont du mal à se faire accepter dans les expositions officielles, on les regarde toujours d'une manière un petit peu éloignée. Et donc ça a dû créer, entre ces deux hommes simples, ça a dû créer une espèce de communion. Leurs deux femmes étaient des femmes extrêmement simples. Boudin n'a pas eu d'enfant, mais Ribot venait avec sa fille. Et tout ça a créé une petite communauté. Ils avaient du plaisir à se retrouver.
Très éloigné, esthétiquement, parce que Boudin, c'est très lumineux, c'est des lumières argentées, des bords de mer. C'est quelque chose d'autre.
Oui, mais... c'est pas parce qu'on pratique différemment qu'on ne peut pas avoir des affinités amicales
sûr.
Et tout.
Bien sûr.
Et quand vous voyez, alors là, bon, ils sont distants, ils n'habitent pas du tout les uns près des autres, mais le nombre d'artistes qui vivaient à proximité les uns des autres, il y avait des échanges, même si on ne pratiquait pas la même chose, il y avait tout de même des... On se rencontrait et on parlait de son art.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce Ribot des natures mortes ? J'ai l'impression que vous êtes moins sensible que je le suis aux natures mortes de Ribot, et particulièrement à ses gigots.
Oui. Après, comment l'expliquer ?
Il y en a une qui est formidable quand même, peut-être que celle-là vous touche, parce qu'elle est très urbaine, c'est la tête de mouton, qui est posée en déséquilibre, légèrement, avec un petit sillon noir du nez, comme ça, c'est sensationnel, non ?
Oui.
Je ne suis pas
enthousiaste.
Moi qui pensais que vous étiez ribotophile, quoi qu'il arrive.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est dans le travail sur un artiste, c'est cette découverte, le côtoyer quotidiennement, surtout ces derniers jours. Apprendre à le regarder et découvrir à travers son histoire, les critiques, etc., son humanité. Aide à aborder l'œuvre de manière différente.
En fait, j'ai l'impression que vous préférez Velázquez à Ribot. Vous êtes un peu comme Alfred Darcel, qui lui aussi est méchant, et ensuite on va écouter des choses positives.
Je ne suis pas méchante.
Non, vous n'êtes pas méchante. Vous avez tout à fait raison, mais vous êtes sévère. Écoutons ce que dit Alfred Darcel, trop sévère lui aussi, à mon avis.
Curieux que dans la toilette du matin et la prière, les pauvres petites ont beau se passer de l'eau sur la figure, elles ne laveront jamais le noir irrémédiable qui s'y étend, ainsi que sur leurs membres et sur leurs vêtements. Aussi voyez-les à la prière du matin, agenouillées dans la chapelle. Elles sont toujours aussi barbouillées. D'ailleurs, étant de plus grande dimension que d'habitude, on voit mieux qu'elles sont d'un dessin peu précis. Monsieur Ribot a pris à Velázquez, à celui des célèbres scènes populaires de musées d'Espagne plutôt qu'à celui des portraits de Paris et d'Angleterre, ses gris harmonieux et ses noirs profonds. Il faudrait cependant ne pas user jusqu'à la vue de ses procédés et de ses effets. Le maître en est sorti pour peindre les blondes et lymphatiques infantes. Le disciple devrait bien en sortir aussi quand il peint les enfants. À Alfred Darcel, 1863.
Dominique Lobstein, vous qui avez fait ce catalogue, écrit ce long catalogue, et très beau d'ailleurs, sur Ribot, vous pensez que Darcel a raison? Est-ce qu'il est resté dans cette opinion ou est-ce qu'il a évolué?
Il a évolué.
Ah,
il
bonne nouvelle.
Et en plus, Darcel est un peintre, est un critique normand. Et donc, il y a une espèce de fidélité à la Normandie qui l'incite à évoluer dans ses critiques. Et plus le temps va passer, et plus il va être positif.
Ah, c'est le petit, peut-être ben oui, peut-être ben non, vous voulez dire, il en est un petit peu là.
Mais il n'est pas le seul. Tout à l'heure, vous avez cité Zola, qui va aussi réviser ses positions. On aurait pu parler de Castagnari, qui aussi va évoluer. Je pense que, Après cette espèce de bombe toute noire qui était apparue au salon, les gens ont commencé à réfléchir, à regarder mieux, et finalement tout le monde va adhérer. Et en 78, c'est un succès unanime, par exemple.
Pourquoi ?
Il peint un portrait de Normande, la mère Morieux. Et c'est un portrait comme il les aime, toujours une trogne, avec un vêtement qui dissimule les trois quarts de son personnage, un coup de lumière sur le visage, et là, tout le monde crie au génie. Et pourtant, on pouvait s'y attendre après tout ce qui avait précédé, mais là, tout d'un coup, tout le monde se dit que c'est un grand artiste.
Il y a un tableau qui a eu beaucoup de succès aussi, je crois. C'est d'ailleurs un tableau difficile à regarder, parce que c'est le supplice du coin.
Oui.
De quoi s'agit-il ? Parce que est-ce qu'on n'a pas dit que c'était un tableau qui représentait un artiste espagnol qui justement est un spécialiste de la nature morte ?
Absolument, oui. Le tableau s'appelle Le Supplice des Coins ou Le Supplice d'Alonzo Cano. L'histoire a été ainsi racontée. On rentre dans l'atelier d'Alonzo Cano, on trouve sa femme assassinée. Donc forcément, ça ne peut être que lui l'assassin, et on lui fait subir le supplice des coins, qu'en France on appelle le supplice des brodequins, qui consiste à broyer les os des jambes.
Mais c'est horrible. Hein.
C'est oui. Oui, mais ne vous inquiétez pas, l'histoire finit bien. et en fait, il a représenté le moment où on va taper sur les jambes pour les faire éclater, sur les os des jambes pour les faire éclater. Et l'histoire dit qu'à ce moment-là, le roi d'Espagne a envoyé un émissaire pour dire une main qui a peint de si belles choses n'a pu faire un crime aussi horrible. Et donc, voilà.
Et donc, il est sauvé ?
Il est sauvé.
Et
plus tard, on se rend compte que c'était en fait un garçon d'atelier qui avait tué sa femme.
Ah. Donc il est justement sauvé.
Il est justement sauvé. Et
un bon peintre ne peut pas être un criminel.
Absolument. Enfin, bon.
Ah, vous avez un petit doute ?
Ben, je ne sais pas, vu ce qu'on dit de Sickert, par exemple.
Oui, alors Sickert, ce grand artiste anglais qu'on pense être Jacques l'Éventreur.
Absolument.
Et qui est un artiste qui a incroyablement influencé Degas, par exemple.
Absolument, oui.
Hein, qui est un artiste absolument formidable, des bas-fonds londoniens, et qui n'est pas, je trouve, si loin dans certaines atmosphères de Ribot. C'est aussi un monde sombre et pauvre et malheureux. Et...
Vous avez tout à fait raison, oui.
Et alors Courbet, parfois il cite Courbet comme un artiste qui l'inspire. Il se regardait.
Il a dû le voir au salon. C'était quelqu'un. Courbet était quelqu'un dont tout le monde parlait. Hein. On ne pouvait pas passer à côté de Courbet. Donc, et je pense que dans le réalisme de Courbet, regarder certaines trognes, regarder les personnages. Bon, alors on est en 55, mais regarder les personnages de l'enterrement à Ornans, on n'est pas si loin que ça de
non,
Ribot.
Pas si loin.
Il y a quelque chose.
Alors, il lui est arrivé quelque chose de terrible. C'est vous qui allez nous le raconter. Qu'est-ce qui s'est passé de terrible pendant la guerre pour Ribot ?
Alors, il habitait à Argenteuil. Et les Prussiens arrivant, il a fui avec sa famille en Normandie, stockant ses œuvres à la cave. Et les méchants envahisseurs ont détruit toutes ses œuvres. Ça a énormément marqué...
Les Allemands ont tout détruit ?
Oui.
Ils se sont servis d'étoiles pour faire des bandes velpo, pour se soigner, pour des choses comme ça, j'imagine.
Voilà. Et ça a énormément marqué Théodule Ribot, qui par la suite n'est pas revenu à Argenteuil. Il est venu s'installer par la suite à Colombes. Et il semblerait qu'il fasse allusion à cet épisode de la guerre dans certaines de ses œuvres, notamment le village en feu. Et Peut-être aussi dans la fameuse leçon de géographie, donc un tableau qui est conservé au musée d'Evreux.
Mais je croyais que la leçon de géographie était peinte par sa fille, Louise. Je me trompe?
Le tableau...
Non, vous pouvez, dites-nous, hein, dites-nous.
Le tableau d'Evreux est peint par Ribot.
Tout avoué. Ribot propose sa leçon de géographie au salon de 1881. Sa fille propose une leçon de géographie au salon de 1882.
Mais alors, comment, il y a une rivalité ou,
Non, pas du tout. Ah non, entre le père et la fille, aucune rivalité.
Aucune
rivalité.
Mais il est beau d'ailleurs le tableau de la fille, je trouve.
Oui. Mais elle se contentait de petits formats, peut-être un petit peu avec l'aide de papa.
Oui, parce que c'était vraiment dans le même style, hein, c'est vraiment très proche, Louise.
Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve les mêmes éléments. La map monde est exactement la même, traitée de la même manière.
Voilà. Alors, il se passe quelque chose qui est assez merveilleux et très émouvant, je pense, c'est en 1874, ses amis décident de lui remonter le moral.
84.
Bah dites-moi,
1884.
Pas 74, 84, je me suis trompé, c'est pas grave. Alors, racontez.
Ben voilà, je vous ai dit, c'est un homme malade, et en fait, ses amis, en 73, déjà des artistes, dont Ribot avait organisé une réception en l'honneur de Corot, parce que justement, Corot était sur la fin de sa vie, on voulait l'honorer. Et en 84, on fait un peu la même chose pour Ribot, il va pas bien.
C'est à l'Hôtel Continental.
À l'Hôtel Continental, on organise une grande réception.
Et
200 invités.
Ah oui, mais quel genre d'invités?
Le banc et l'arrière-ban du monde de l'art et de la littérature. Vous avez Rodin, vous avez Goncourt, vous avez Lalo, vous avez parmi les peintres vraiment tout le monde.
Et mais alors là, quand on réunit des gens comme ça autour de soi, ou qui veuillent bien vous accompagner, vous aider, ça veut dire que vous êtes aimé et que ça doit gagner, ça doit être pour toujours. Et on n'aurait jamais dû l'oublier, Ribot.
Et on l'a oublié.
Et alors, il a été ému. On va écouter ce que l'on dit. Écoutons le dîner en l'honneur de Théodule Ribot à l'Hôtel Continental. Qu'est-ce que dit Fourcault qui relate ce moment? Écoutons.
Le maître, remué jusqu'au plus profond de l'âme, se mit à pleurer. « Je bois à l'art, » dit-il d'une voix entrecoupée par les larmes. « Je bois à l'art que j'aime, à l'art de nos maîtres, à l'art de Millet, de Corot, de Domini, de Courbet. »
Christine de Sem, vous avez entendu, comme moi, cette déclaration de Ribot. Très joliment lu, non? Vous n'avez pas trouvé?
Oui.
Émouvant? Les larmes vous montent aux yeux?
Peut-être pas à ce point, mais c'est vrai qu'il est très touchant.
Ce qui est touchant, c'est d'avoir ses amis autour, au fond. Hein. Et ses amis, au fond, ne vont pas le quitter jusqu'au bout, parce que je remarque en lisant, lorsque vous relatez dans le catalogue, les articles, les inquiétudes, il commence à être malade du cœur, il va pas très bien, hein, n'est-ce pas, Dominique? Et les amis sont de plus en plus là. Autrement dit, il a créé un groupe autour de lui, de gens qui font attention à ce personnage singulier. C'est ce que vous ressentez, Dominique?
Absolument. Et alors, ça pourrait être les gens de son âge, ça pourrait être Boudin. Eh bien non, vous avez plein de jeunes artistes qui quand même sont là. Je pense à Fernand Pelès, par exemple, le peintre de Grimace et Misère. Tous ces artistes qui relèvent du réalisme, du naturalisme, eh bien, le regardent comme une des grandes figures de l'art.
Et donc, on va écouter, j'aimerais bien qu'on écoute ce que dit Léopold Mabillot, et on va voir, c'est en 1891, donc là, on est à la fin, hein, on peut le dire, et je voudrais qu'on l'écoute, parce qu'on voit que, tout d'un coup, toute une époque a changé d'avis. Écoutons.
À vrai dire, s'il ne s'était agi que de permettre aux ignorants de distinguer du premier coup d'œil 16 œuvres parmi toutes les autres, une seule eût suffi. Tant l'originalité du peintre apparaît tranchée et violente dans la facture extérieure qui s'impose au regard. Un fond de bitume où se perdent les vêtements uniformément sombres des personnages, une face blême aux yeux luisants de braise, au méplat saillant, à la peau rugueuse et martelée, des mains ridées ou noueuses, sortant on ne sait d'où et venant accentuer encore l'apparence fantomale de la figure, voilà ce qu'on est sûr de trouver dans tous les tableaux de M. Ribot. Et cette constatation faite, bien des gens détournent la tête à la recherche d'une peinture plus sympathique. Mais si l'on y regarde de plus près, on se sent peu à peu saisi par l'intensité de vie, par la puissance et la variété d'expression qui se dégagent de cette austère monotonie. Léopold de Mabillot, 1891.
Nous entendions cela, on sait que, Dominique Lobstein, on est quoi ? C'est probablement la chronique d'un salon, du dernier salon, c'est qu'est-ce
probablement que... d'un salon de la Société Nationale des Beaux-Arts.
C'est-à-dire... Et donc il va mourir un an plus tard, à peu près ?
Oui.
Et là, on sent quelque chose qui est, je trouve, intense et qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens préféreraient des choses plus douces, probablement la Vénus de Cabanel ou sa sœur. Et finalement, en regardant bien, c'est un sacré peintre. Qui a une sacrée force. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'art pompier qu'on voyait aussi dans les salons à cette époque-là ? Il a une sacrée force. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, les derniers mots de cette lecture, la vie derrière cette apparente monotonie. Je pense que voilà, il y a tout est dit sur l'œuvre de Ribot. Oui, une nette préférence pour Ribot.
Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a de la monotonie parce qu'il y a quelques sujets.
L'apparente monotonie.
Mais c'est pas ce que vous en pensez. C'est pas monotone, n'est-ce pas ? Cette œuvre, il y a des sujets divers, il y a de la gravure, il y a du dessin, il y a un savoir-faire assez extraordinaire. Il est parvenu une technique au cours de sa vie fantastique.
C'est ce que vous ressentez aussi. Et une lumière et une intensité qui se dégagent de certaines œuvres, notamment de certains portraits qui sont assez intéressantes.
On ne peut pas le confondre avec d'autres artistes de son époque ou bien est-ce que vous trouvez qu'il y a il est dans l'esprit du temps ?
Non,
pas du tout. Hein.
Oui, très particulier.
Très particulier. Qu'est-ce que vous pensez de cette, pas de cette dernière critique, mais de ce profil de carrière, finalement d'avoir commencé assez tard à apparaître dans le public et puis d'avoir peu à peu convaincu et créé une solidarité autour de lui, puisque lorsqu'il y a eu l'exposition aux Beaux-Arts, ils ont fait une exposition à l'École des Beaux-Arts, qui était un des endroits importants d'exposition à Paris à cette époque-là.
Et où
déjà, je rajoute déjà.
Où on rendait hommage aux grands artistes qui venaient de décéder. Il y a eu l'exposition Manet quelques années avant, et il y a eu une exposition Ribot. Donc c'est quand même une reconnaissance absolue.
Et puis il y avait l'exposition si importante des estampes japonaises, et qui a tellement marqué les artistes. Donc les artistes y allaient tous. Donc on fait cette exposition pour Ribot, et pour cette exposition, le droit d'entrée devait servir à lui faire un monument. Est-ce qu'il a eu son monument ?
Il n'a pas eu son monument à Paris.
Donc son monument, c'est le catalogue que vous venez de faire pour l'exposition.
Non, son monument, c'est la volonté d'un conseiller municipal qu'une rue garde le souvenir de Ribot.
De son vivant.
De son vivant ?
De son vivant.
Expliquez-nous.
Lors d'un conseil municipal, donc le maire de l'époque, Gustave Bienvêtu, donc qui était peintre et qui a été maire de Colombes quelques années, avait demandé à la municipalité d'honorer cet artiste en donnant le nom d'une rue du centre-ville, d'une petite rue du centre-ville. Et le conseil municipal a voté favorablement à l'unanimité, mais cela ne s'est pas fait tout de suite. Cela s'est fait après sa mort, en 1892. Donc l'une des rues de Colombes a été nommée Théodule Ribot.
Et bien comme ça, les habitants de Colombes, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Colombes ?
Les Colombiens.
Ben, les Colombiens sauront, parce que parfois on passe dans une rue, on ne sait pas qui était le personnage évoqué. Maintenant, ceux qui écoutent en tout cas notre émission sauront de qui il s'agit. Dominique Lobstein, qu'est-ce que vous pensez que des artistes d'aujourd'hui peuvent prendre à l'œuvre de Ribot quand on la voit ? Est-ce que vous pensez que c'est une peinture qui peut intéresser des créateurs d'aujourd'hui ?
Absolument, et la preuve en a été faite au moment de l'exposition. Donc oui. L'exposition commençait à Courbevoie, et nous avions demandé au musée d'Orsay son tableau du salon 70, Le Bon Samaritain. Et alors le musée d'Orsay, qui était extrêmement généreux pour cette exposition, nous a refusé le tableau, parce qu'au même moment, il y avait une exposition autour du peintre américain Schnabel, le oui. peintre contemporain, oui. et il voulait dans son exposition ce tableau de Ribot.
Ah, c'est étonnant.
Donc c'est un artiste qui peut parler aux artistes.
Alors Schnabel qui vient de sortir un film sur Van Gogh, hein, c'est lui qui l'a donc réalisé et qui est un film extraordinaire. Et justement, Ribot Van Gogh, qu'est-ce que ça vous inspire?
Pourquoi pas?
Ribot Monticelli.
Catastrophe.
Pourquoi?
Monticelli,
c'est beau.
C'est systématique. C'est pas pour ça n'a pas la richesse d'un...
Van Gogh le considérait comme un des très grands artistes de l'époque. Oui, et si je parle de lui, c'est pas pour, c'est parce que Monticelli est un artiste qui était aussi un singulier, était aussi un obstiné et qui marchait sur les routes, qui faisait ses tableaux, qui ne faisait pas si attention à ce qu'on pouvait dire de lui, n'est-ce pas?
Ah oui, ça là, je suis tout à fait d'accord pour vous, mais je lui reprocherais peut-être de ne pas renouveler ses sujets souvent et d'avoir une technique qui est toujours la même. Et là, tout à l'heure, Christine relevait la formule sur la monotonie.
L'apparente monotonie.
Oui. Et ben, chez Monticelli, les apparences sont très monotones.
Alors moi, voilà. Je suis pas du tout d'accord avec vous, mais c'est pas grave, comme Van Gogh non plus n'est pas d'accord avec vous, j'ai au moins un allié. Mais ce qui est agréable, c'est de pas être d'accord, c'est toujours formidable. Et alors, dites-moi, Théodule Ribot, regardez, au fond, qui, en dehors des Espagnols, parce qu'on en a trop parlé, et de Rembrandt, dans son époque, est-ce qu'il aimait, par exemple, l'école de Barbizon?
Oui. Oui, il y a cet épisode qu'il raconte lui-même. Avant même d'être artiste, il a souhaité aller à Barbizon pour rencontrer Millet. Et donc il y est allé, il s'est fait recevoir de manière pas vraiment cordiale, pas complètement cordiale, mais il est rentré, il explique lui-même qu'il ne marchait plus, il volait tellement il était content d'avoir rencontré son idole, et il décrit un tableau dans l'atelier de Millet qui fait qu'on sait à peu près la date à laquelle il s'est rendu.
Quel genre de tableau ?
C'était un tableau paysan.
Faut dire que Millet, c'était un immense artiste à l'époque. L'Angélus était dans toutes les chaumières, si je puis dire. Hein? Et Millet, oui, c'était même d'ailleurs pour Van Gogh aussi, dont on parlait à l'instant, c'était aussi la star de Van Gogh.
Ah oui, c'est une grande référence pour tous les artistes, Millet.
Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à l'un et l'autre, merci Christine Dessem de faire cette exposition. Merci Dominique Lobstein d'avoir fait ce très beau livre.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Christine Dessem, conservateur du musée de Colombes, et Dominique Lobstein, auteur du catalogue et commissaire de l'exposition peut-être, pour évoquer donc ce fameux Théodule Ribot que vous nous faites redécouvrir. Vous retrouverez toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'était une émission faite en collaboration avec Seam Boutata. Recherche et choix des textes, Héloïse Alluin. Merci Héloïse. Lecture des textes, Gabriel Dufay. Magnifique voix. Prise de son, Stéphane Desmonts. Réalisation, Franck Lilin, évidemment. La semaine prochaine, et ça va être passionnant, nous allons parler de Franz Marc et Franz Marc, les aventures du Blaureiter au début de la modernité, entre 1910 et 1914, une révolution esthétique qui se termine tragiquement et qui se fracasse dans la Première Guerre mondiale. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.